Bonjour, donc je vais enchaîner aujourd'hui par une autre vision de ces interfaces. C'est un mot qui va être beaucoup utilisé aujourd'hui. Et donc là, ce sera une vision quand même beaucoup plus locale des choses, puisque l'idée, c'est de faire des simulations moléculaires. Alors, je ne parlerai pas de tout solide, je vais rester sur des systèmes beaucoup plus classiques. Et en réalité, c'est parce que dans n'importe quelle cellule électrochimique, donc ici, c'est une cellule qui est utilisée pour l'électrolyse de l'eau, il y a toujours des interfaces, parce qu'on va toujours faire, on aura toujours au moins deux électrodes et un électrolyte, et donc il y a forcément contact entre les deux, avec, en fonction des dispositifs qu'on regarde, plus ou moins de réactivité, plus ou moins de transport d'électrons, plus ou moins de transport de matière, mais toujours des phénomènes qui se passent au niveau de ces interfaces. Et donc si on zoome au niveau de... Si on zoome entre le solide et le liquide, on va se rendre compte que l'interface, elle est granuleuse et elle est hétérogène. Et en réalité, on va pouvoir l'avoir de plusieurs échelles qui vont dépendre des sondes auxquelles on a accès. Et vous l'avez vu sur l'exposé de Jean-Marie, très souvent, les images étaient à une échelle où on voyait des joints de grains, on voyait des défauts atomiques, parce que une électrode, c'est jamais une surface plane. Et donc ça, c'est le genre d'image qu'on peut avoir par microscopie lorsque on analyse in situ ou pas une électrode lorsqu'elle fonctionne. Ensuite, et c'est plutôt à ces échelles-là que je vais m'intéresser aux choses, vous pouvez encore zoomer. Donc là, on va être à l'échelle d'une dizaine de nanomètres ou moins, on va dire quelques nanomètres, et bien là, c'est là que se passe vraiment la chimie, puisqu'on a des molécules, alors ici des molécules d'eau, qui viennent se mettre sur une surface de platine et qui vont s'arranger. Et finalement, comme de toute manière tout solide et liquide a une structure particulière, et bien l'interface aussi aura une structure qui va fortement influer sur les propriétés du système. Et on peut aller encore plus loin, on peut zoomer sur une seule molécule. Et là, on va s'intéresser plutôt à ce qui se passe à l'échelle de l'électron, et parce que c'est la structure électronique du système qui va définir... Alors, de toute manière, ça définit déjà de toute façon la structure, comment les molécules se mettent en place, mais surtout, dès qu'on va s'intéresser à des problèmes de réactivité, eh bien, c'est les électrons qui sont mis en jeu. Donc... Moi, je vais m'intéresser uniquement à des méthodes de simulation. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des ordinateurs pour prédire ou pour comprendre ces systèmes-là. Et comme il y a plusieurs échelles, eh bien, il va y avoir plusieurs méthodes. Et il y a même des dizaines de méthodes qui peuvent être utilisées. Alors, à l'échelle, on va dire, des joints de grains, etc., on va parler de l'échelle mésoscopique ou macroscopique, puisque c'est une échelle que l'on peut voir, pas tout à fait à l'œil nu, mais au moins en microscope. On est sur l'échelle de quelques microns. Et donc ça, c'est des simulations qui sont, en général, c'est le domaine des ingénieurs. C'est plutôt des simulations qui sont faites, on va dire, par des industriels ou aussi dans des laboratoires, mais c'est des méthodes qu'on retrouve assez peu, en tout cas dans nos laboratoires de chimie. Souvent, ce sont des méthodes par éléments finis, donc ça, je ne vais pas en parler du tout aujourd'hui. Bon, je vais parler des deux autres échelles. Donc l'échelle de quelques nanomètres, où là, on va utiliser ce qu'on appelle des simulations moléculaires classiques, puisqu'on utilise des principes de la physique classique. Et la méthode de choix ici s'appelle la dynamique moléculaire. Je vais revenir dessus très vite. Et l'autre échelle qui va être importante dans les laboratoires, c'est l'échelle électronique. Donc là, on parle de simulation moléculaire ab initio. Ab initio, ça veut dire que l'on part des premiers principes. Et donc, a priori, on va faire très peu, voire si possible pas du tout d'approximation dans ces calculs-là, mais finalement on en fait quand même toujours, on n'est pas encore capable d'aller vraiment au principe premier. Et là, la méthode la plus connue, c'est ce qu'on appelle la théorie de la fonctionnelle de la densité, que je vais abrévier plus tard par DFT, donc à chaque fois j'utiliserai ce terme-là. Sachant que, j'y reviendrai à la fin, il y a aussi un pont qui est fait entre ces deux échelles-là. Et bon, encore une fois, il y a des dizaines de méthodes, je ne parle vraiment que des plus importantes. Et là, on va parler beaucoup d'une méthode qui s'appelle la dynamique moléculaire ab initio. Alors, donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la partie théorique, hein, je vais vraiment beaucoup plus me focaliser sur les applications, mais pour vraiment comprendre quels sont les objets qu'on manipule, eh bien, en DFT, on va résoudre l'équation de Schrödinger. Alors, l'équation de Schrödinger, attention, c'est déjà une équation qui est simplifiée ici, puisqu'on considère que les noyaux sont des objets classiques et on ne résout l'équation de Schrödinger que pour les électrons, c'est ce qu'on appelle l'approximation de Born-Oppenheimer. Et donc, on va résoudre cette équation. En gros, on a des cellules de simulation qui font ces tailles-là, donc quelques dizaines d'atomes, je vais revenir sur la question de taille un peu plus tard. Et en chaque point de cette boîte de simulation, eh bien, on va essayer de déterminer quelle est la quantité d'électrons qui sont présents. Et donc ça se fait par... En gros, on cherche à trouver la densité électronique qui va minimiser l'énergie globale du système. Donc là, c'est des exemples d'images qui sont tirées de travaux récents, soit d'une électrode de titane, un titane semi-conducteur en contact avec de l'eau, et c'est la localisation d'un trou électronique, ou alors ici vous avez des molécules organiques adsorbées sur une électrode de graphite, et puis ce qu'on voit qui entoure les molécules, c'est la densité électronique correspondante. Et donc la DFT, c'est vraiment une méthode qui est extrêmement utilisée dans tous les domaines de la chimie à l'heure actuelle. Pour vous donner une idée de l'ampleur que ça peut avoir, Walter Cohn, qui est à l'origine de cette science, a eu le prix Nobel de chimie en 1998. Et on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est une méthode qui est autant, sinon plus utilisée, que n'importe quelle méthode de spectroscopie. C'est très rare à l'heure actuelle de trouver un laboratoire de chimie sans qu'il y ait un ou plusieurs utilisateurs de cette méthode-là. Alors pour ce qui est de la dynamique moléculaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus classique, et donc ça se base sur la mécanique de Newton. Donc a priori, toute personne qui a suivi un cours de physique au lycée peut comprendre et faire de la dynamique moléculaire de manière très simple. Ce qui va changer, c'est le nombre d'objets. C'est-à-dire que lorsqu'on est au lycée, on s'intéresse à un pendule qui oscille, et donc on a un seul objet pour lequel on veut déterminer son mouvement, à quelle vitesse il passe en chaque point de l'espace. Dès qu'on va s'intéresser à un système moléculaire, on va avoir des dizaines, des centaines d'atomes. Donc là, j'en ai représenté que quelques-uns sur une image très schématique. Et chaque atome, on va le caractériser par deux choses très simples, c'est sa position dans l'espace, donc x, y, z, et sa vitesse, la dérivée de la position, x point, y point, z point. Et donc, comme pour la physique du pendule, on veut résoudre l'équation de Newton, qui est que masse fois accélération, c'est la force qui s'applique sur la particule, c'est-à-dire le gradient du potentiel. Donc ça, a priori, quand on a un seul objet, c'est très simple, on a une réponse analytique. Sauf que là, comme on a n objets, n pouvant être très grand, eh bien, on ne sait pas résoudre ça sur le plan analytique. Et donc, on est obligé de faire des simulations numériques où, en gros, on va faire un développement limité pour simplifier au deuxième ordre, mais en réalité, on a des méthodes qui permettent d'être au troisième ordre, où les positions à un temps t plus delta t, delta t étant très faible, sont égales aux positions à l'instant t, plus la vitesse à l'instant t fois delta t, plus 1/2 fois l'accélération à l'instant t fois delta t2, et on peut aussi avoir la vitesse à l'instant t plus delta t. Pour vous fixer un chiffre, le delta t en question ici, c'est une femtoseconde, c'est-à-dire 10 puissance moins 15 secondes, un millionième de milliardième de seconde. C'est le temps, des temps caractéristiques, des vibrations des noyaux, des atomes. Si on prenait des temps plus longs, eh bien, l'erreur qu'on fait ici deviendrait trop grande et on ne reproduirait pas bien la physique du système. Donc en pratique, une simulation dynamique moléculaire, c'est très simple. J'ai mes atomes, je calcule les forces qui s'appliquent sur chacun d'entre eux. Donc ça, on a ce qu'on appelle des champs de force. On sait comment les atomes interagissent entre eux de manière approximative. Et donc on calcule les interactions entre tous les atomes. On a des forces qui vont dans la direction des flèches que j'ai indiquées ici en rouge. et on déplace les atomes sur un temps très très court. Et au final, on va faire ça, si on choisit un des atomes et pour plusieurs pas de temps, on va avoir des trajectoires qui vont durer plusieurs, le temps typique c'est la nanoseconde, donc un milliardième de seconde. Donc ça veut dire que ce calcul-là, on le fait des millions de fois. Et donc ça, ça va donner beaucoup de grandeur énergétique, thermodynamique, etc. Et on va dire qu'il y a trois applications principales de la dynamique moléculaire. La première, la plus rapide, la plus directe, on va dire, c'est la visualisation. C'est-à-dire qu'en chimie, on aime bien regarder les molécules qu'on utilise, les matériaux dont on sert. Et en cristallographie, souvent, c'est assez facile quand on a des solides, mais dès qu'on a des liquides ou des systèmes biologiques, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien là, vous avez une image, c'est un mur d'image qui est dans un laboratoire où je travaille, qui est à Saclay. Donc ça fait 4-5 mètres de large sur 3 mètres de haut. Et ça permet de vraiment de s'immerger dans un système et d'avoir accès à la structure et de voir comment, en biologie en particulier, une protéine va interagir avec une molécule, un médicament, etc. Ensuite, on peut aller plus loin et aller faire de l'interprétation. Alors ici, vous avez des spectres neutrons en haut, rayons X en bas. Donc en gros, on a pris des matériaux et puis on a regardé comment ils diffractent ces rayons-là. Sauf que, au final, on a un signal qui contient de nombreux pics, et alors qu'au départ, notre matériau va comporter 3, 4, 5, voire même une dizaine d'espèces. Et c'est très difficile d'aller déconvoler le signal et de dire que tel pic correspondent à telle distance, telle interaction dans le matériau. Surtout quand on a des verres, quand on a des matériaux désordonnés, dès qu'on a des défauts, etc. La simulation permet de calculer exactement les mêmes fonctions, et ensuite on superpose les signaux, et quand on a comme ici un très bon accord entre les deux signaux, eh bien ça valide la simulation, et ça veut dire qu'on va pouvoir, là, en simulation, comme on sait exactement qui est à l'origine de tel ou tel pic, eh bien on va pouvoir aller interpréter toutes ces données, soit de diffraction, soit de spectroscopie. On peut aller plus loin aussi dans la thermo, etc. Et enfin, une dernière application de la simulation qui est, à mon avis, beaucoup plus rare encore à l'heure actuelle, c'est d'aller vers de la prédiction, c'est-à-dire là d'aller observer des phénomènes chimiques qu'on ne peut pas voir expérimentalement parce qu'on n'a pas les outils pour, on est à des échelles beaucoup trop petites. Et donc là, vous avez un exemple, c'est pour des questions de réactivité entre des molécules, c'est des questions sur la formation des acides aminés à partir des briques de petites molécules. En gros, la question, c'est comment s'est fait former la vie au début de la Terre. Parce qu'il y avait des petites molécules comme ici, de l'eau, CO et NH3, l'ammoniac, et comment ces molécules se sont assemblées pour former des acides aminés. Et en faisant des simulations moléculaires, on peut voir que les molécules peuvent réagir pour donner ici ce composé-là, mais il y a d'autres chemins de réaction possibles qui vont former d'autres molécules chimiques. Et donc, en étudiant toutes les possibilités de réaction, eh bien, on peut avoir accès à des choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc ça, c'est vraiment la partie prédiction qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore, on va dire... c'est pas très facile de faire des prédictions. Avant ça, il faut quand même avoir validé tous les modèles, ce qui prend en général beaucoup de temps. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore parlé beaucoup d'interface. Juste pour finir sur la méthodologie, il faut savoir une chose, c'est que toutes les simulations dont je vous parlais, ne sont pas faites sur des ordinateurs portables. On a accès à ce qu'on appelle des supercalculateurs. Alors ici, vous avez un exemple de supercalculateur qui était à Bruyères-le-Châtel, Curie, qui a été arrêté l'année dernière, après 6 ans de fonctionnement. Sachant qu'au départ, c'était le 9e plus puissant au monde, et que l'an dernier, il était même pas parmi les 500 plus importants dans le monde, tellement ça va vite. Et c'était une machine qui permettait de faire 2 pétaflops, c'est-à-dire 2 millions de milliards d'opérations par seconde. Alors ça, ce n'est pas des chiffres très parlants quand on n'est pas dans le milieu, mais en gros, il faut se rendre compte qu'une simulation typique lambda, ça va être 100 000 heures de calcul sur ces machines-là, Si j'avais un seul processeur, ça me prendrait 10 ans pour la faire. Là, comme tous les processeurs peuvent travailler en parallèle, enfin en général, c'est rare qu'on utilise toute la machine, on va utiliser peut-être toute cette partie-là, c'est-à-dire un millier de processeurs, eh bien, ça va nous prendre que quelques jours ou quelques semaines pour avoir le résultat, et donc ça accélère grandement l'obtention de toutes les données qu'on souhaite. Donc, il faut voir que ces simulations, ce n'est pas gratuit, ça a un coût puisqu'il faut, il faut fournir l'électricité à ce système-là, le climatiser, le maintenir, et donc une simulation typique qui va prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines, ça coûte 3000 euros. Ça reste un coût très raisonnable par rapport à des simulations, au coût expérimental en général, mais ce n'est quand même pas négligeable non plus. Et donc en pratique, je vous ai montré rapidement deux méthodes de simulation, la DFT et la dynamique moléculaire. Et en fait, le choix entre les deux, il n'est pas forcément simple, mais il y a quelque chose qui est important, c'est que de toute façon, on sera limité en taille et en temps qu'on peut simuler. Et donc, vous voyez ici les tailles de système typiques, ça va être de la centaine d'atomes à la centaine de milliers d'atomes. La centaine de milliers d'atomes, c'est plus lorsqu'on va vouloir faire des systèmes biologiques. Et il y a la question des échelles de temps. La DFT, telle que je vous l'ai présentée, n'inclut pas de temps, c'est juste, à un moment donné, je calcule l'énergie et j'ai mon système de manière très précise. Donc, c'est pour ça que je l'ai indiqué par cette flèche ici. La dynamique moléculaire, comme je vous l'ai dit, on va faire des millions de pas de simulation qui vont nous donner accès à des temps allant de 1 à une dizaine ou une centaine de nanosecondes. Et donc, lorsqu'on veut faire étudier des interfaces ou des systèmes électrochimiques, bien, il faut voir que ce qui nous intéresse, c'est en gros cette zone-là, de 1000 à 10 000 atomes, et des temps qui sont quand même assez courts. Mais ça va quand même limiter, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qu'on va pouvoir traiter par DFT, mais dès qu'on va vouloir avoir accès à des aspects dynamiques, on est obligé de faire de la dynamique moléculaire classique. Alors, il faut voir aussi qu'en réalité, il y a des théories qui ont été développées et on pourrait éventuellement se passer de simulation. Et souvent, lorsqu'on fait des analyses de résultats d'électrochimie, on utilise des équations qui s'appellent Butler-Volmer, etc., qui sont basées sur des théories analytiques. Or, là, le problème auquel on se confronte, en particulier lorsqu'on fait du stockage de l'énergie, c'est qu'on a des électrolytes, c'est-à-dire des solutions liquides, qui sont très concentrées en ions. Or, ça, c'est la théorie qui permet normalement de savoir comment les ions se mettent sur une surface d'électrode. C'est une théorie qui a été développée en plusieurs étapes, mais en gros qu'on appelle Gouy-Chapman-Stern. C'est une théorie dont on sait qu'elle ne fonctionne que jusqu'à des concentrations de 10 puissance moins 3 mol par litre, c'est-à-dire qu'en gros, les ions, là, ça correspond à une molécule sur 50 000 dans le liquide. Nous, dans les batteries ou dans les systèmes de stockage de l'énergie, on est plutôt à une échelle, une molécule sur 50, et donc on ne peut pas utiliser normalement ce genre de théorie, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il n'y a vraiment que les simulations moléculaires qui nous donnent accès à la structure de manière précise. Alors, je vais commencer par un exemple d'électrochimie simple, qui est une interface entre de l'eau et une électrode de métal. Donc ça, on pourrait se dire, l'eau, on connaît très bien, et donc il n'y aura pas de difficulté particulière sur ce système-là. Or, en réalité, il y a eu des résultats de microscopie où des gens ont mis des monocouches d'eau, ou peut-être même pas tout à fait des monocouches d'eau, d'une toute petite quantité d'eau sur des métaux, et se sont rendu compte qu'en fonction du métal que l'on mouille, donc ça peut être du ruthénium, du cuivre, palladium, platine, eh bien on voit apparaître des structures ordonnées et qui vont différer énormément d'un cas à l'autre, avec des échelles de taille aussi assez différentes. Et donc déjà, l'eau, à l'interface, prend une structure qui est complexe et qu'on ne peut pas deviner comme ça, juste avec notre instruction chimique. Donc ça, ici, vous avez un exemple de simulation d'eau sur du platine qui a été réalisé il y a quelques années par des collègues au MIT à Berkeley. Et en fait, ce que ça montre, c'est que sur une surface de platine, l'eau va venir former une première couche, donc le platine est bien mouillé par l'eau, mais en fait, cette couche interagit très peu avec l'eau voisinante, et ça, c'est parce que l'eau aime bien faire des liaisons hydrogènes, et l'orientation ici des molécules d'eau de surface ne leur permet pas de faire des liaisons hydrogènes avec le liquide. Et donc, au final, on se retrouve avec le platine qui est hydrophile, il veut bien des molécules d'eau sur sa surface, Mais cette couche de molécule d'eau elle, est elle-même hydrophobe, et donc ça va impacter la réactivité de cette interface. Là, vous avez la même interface, mais vue de haut. Et vous voyez que ce qui se passe aussi, c'est que les molécules d'eau qui sont absorbées sur le platine, eh bien, elles vont avoir tendance à être presque bloquées et à très peu diffusées. Et donc ça aussi, ça va avoir une importance marquée sur la réactivité de la surface, puisque on va avoir... Excusez-moi. Hop. Pour que des molécules viennent réagir, eh bien, il va falloir venir remplacer ces molécules d'eau, et ça va se faire sur des échelles de temps qui sont finalement très longues. Et d'ailleurs, ici, vous avez un exemple pour voir où il y a aussi des phénomènes collectifs qui vont se passer à cause de cette structuration de l'eau. En gros, pour qu'une molécule d'eau, lorsqu'une molécule d'eau va s'en aller, eh bien, il va y avoir un mécanisme de diffusion de la lacune. En gros, l'atome de platine qui n'a plus de molécule d'eau sur la surface, eh bien, il va diffuser le long parce qu'il y a des réarrangements collectifs qui se font sur la surface, jusqu'à ce qu'une autre molécule vienne s'absorber. Et donc là, dès qu'on a des phénomènes collectifs comme ça, eh bien, les échelles de temps sont très très lentes par rapport à la vitesse de transfert d'électrons. Donc maintenant, je vais passer sur des systèmes plus complexes, des systèmes de stockage de l'énergie. Tout à l'heure, Jean-Marie a montré un diagramme énergie-puissance sur lequel on voyait apparaître toutes les différentes technologies de batterie, donc plomb, nickel, lithium-ion, et puis le lithium-ion, on va dire, du futur, ou c'est peut-être maintenant le lithium-ion qu'on a maintenant, qui correspond à des densités d'énergie qui sont très élevées. Il y a d'autres dispositifs de stockage d'énergie qu'on appelle les supercondensateurs, qui, eux, permettent des densités de puissance très élevées, donc, mais par contre avec une énergie stockée qui va être beaucoup plus faible. Et la raison à ça, c'est que, contrairement aux batteries lithium-ion, on n'a pas de réaction redox dans les matériaux. Ça va être uniquement basé sur de l'adsorption des cations et des anions. Et donc, en gros, pour schématiser, là où les batteries sont les marathoniennes du stockage de l'énergie, c'est-à-dire qu'elles permettent de faire des distances très grandes dans des voitures électriques, etc., eh bien, les supercondensateurs, on les compare plutôt à des sprinters, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des distances très grandes, mais on va avoir des temps de restitution beaucoup plus rapides. Et donc, je vais commencer par les supercondensateurs, parce que finalement, comme il n'y a pas de réactivité chimique, sur le plan des simulations, c'est beaucoup plus facile à traiter pour nous. Et donc, en gros, ce qui nous a motivés, ce sont des résultats obtenus par Patrice Simon à Toulouse. Et pour vous, l'idée, c'est de vous illustrer vraiment ce que peut apporter la simulation dans un cas très concret. Avant 2006, il n'y avait pas du tout de simulation moléculaire de supercondensateurs. Et donc ça, c'était des résultats qui étaient très innovants obtenus par Patrice, qui montraient que la capacité de stockage, c'est-à-dire en gros le nombre d'ions stockés à l'interface, augmentait énormément lorsqu'on utilisait des carbones nanoporeux, donc avec des tailles de pores correspondant aux nanomètres. Et en gros, pour la vision de l'époque, c'était que dans cette zone ici, lorsque les pores font entre 2 et 5 nanomètres, eh bien, on avait ce genre de structure avec des ions complètement hydratés, enfin complètement solvatés, qui rentraient dans les pores. Lorsqu'on rentrait dans cette zone ici, où on avait à peu près une zone intermédiaire, en gros, où on ne commençait à ne mettre plus qu'une seule couche d'ions, mais toujours solvatés, eh bien, on commençait à décroître la quantité d'énergie stockée parce que ces ions venaient se mettre vraiment au milieu du pore et pas trop à la surface. Et par contre, lorsqu'on diminuait la taille des pores et qu'on arrivait à une taille de pore correspondant à la taille des ions, eh bien, ceux-ci continuaient à rester au milieu du pore, mais il y avait de moins en moins de molécules de solvant, et ça expliquait l'augmentation de la capacité de stockage. Mais en gros, on partait d'une image qui était quand même assez simplifiée des systèmes, parce que lorsqu'on compare l'image de l'époque avec les carbones tels qu'on les connaît, on voit que la structure des carbones est beaucoup plus complexe, avec une porosité qui est tridimensionnelle et assez avec des zones qui sont dans les carbones qui sont très peu graphitiques, etc. Et les ions, au lieu d'être des charges plus simples, bien souvent c'est des molécules qui vont contenir des cycles aromatiques, etc., qui vont être éventuellement avec des protons acides, etc. Et les anions aussi, il y a toute une famille en partant du tétrafluoroborate vers les anions TFSI qui ont des chimies quand même assez particulières. Et donc les simulations des lignes moléculaires, là vous avez des exemples de simulations, donc comme je vous l'ai dit, c'est quelques dizaines de milliers de pas, et on a fait les premières simulations de systèmes réalistes en cours de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on applique un potentiel négatif ici, on applique un potentiel positif ici, et on voit qu'il y a des anions qui viennent s'absorber de plus en plus de ce côté-là, et des cations de plus en plus de ce côté-là, c'est pas forcément visuel là, parce que la simulation n'est pas assez longue, et en parallèle, on peut regarder l'accumulation de charge au sein de l'électrode, on a vraiment, à chaque instant, la répartition de la charge, et ici, tout ce qui est en rouge, ici, correspond à une zone qui est chargée positivement, et à l'opposé, on a une charge négative importante de l'autre côté. Et donc là, les simulations donnent vraiment une image instantanée de ce qui se passe au sein du dispositif. Alors évidemment, il faut valider ces simulations-là, donc en comparant au maximum possible avec les données expérimentales disponibles. Donc pour ça, en collaboration avec l'équipe de Patrice Simon, ils ont fait des mesures ici de voltamétrie cyclique qui ont donné des capacités de stockage. Et pour vous donner l'ordre de grandeur, expérimentalement, ils avaient des valeurs de 85 et nous 110. Donc on a une petite surestimation de la capacité, mais l'ordre de grandeur est vraiment bon. Ensuite, ils ont par impédance, donc les spectres d'impédance montrés par Jean-Marie tout à l'heure, on peut extraire la résistivité des ions au sein des pores. Et donc expérimentalement, les valeurs typiques sont de l'ordre de 60 ohms centimètres ici pour les électrodes étudiées. Nous, on était de l'ordre entre 70 et 80, donc là aussi, une surestimation de cette valeur-là, mais ça montre que les simulations rendent bien compte de la dynamique de diffusion des ions au sein des électrodes. Et enfin, ça c'était une comparaison qui a pu être faite plus tard. En parallèle aux simulations, il y a aussi des méthodes d'études in situ qui ont été développées, en particulier des méthodes par RMN qui permettent d'avoir accès au nombre d'ions au sein des pores. Et vous voyez ici la comparaison entre, alors ce n'est pas tout à fait les mêmes systèmes, mais des systèmes assez proches. Le nombre de cations en fonction du potentiel appliqué et l'anion, évidemment, ça se croise ici en 0 volt. Et vous voyez qu'on a un accord presque quantitatif avec des mesures effectuées par RMN dans un système voisin. Donc ça valide les simulations, ça montre que ce n'est pas juste un film du système, mais que ça permet que la chimie et la physique sont bien reproduites. Et donc, ça veut dire que les images qu'on sort des simulations peuvent être utilisées pour mieux interpréter tout ce qui se passe dans ces systèmes-là. Et donc, quelque chose qu'on a pu démontrer, c'est que la capacité de stockage de ces matériaux dépendait énormément de la manière dont les ions venaient s'absorber. Et donc, vu qu'on a des porosités qui sont assez complexes et tridimensionnelles, on a essayé de définir des sites en fonction de comment les ions venaient se mettre à la surface. Donc en gros, ça c'est un ion qui est au sein de l'électrode. On regarde une sphère de 5 ou 6 angstroms autour, 0,5 nanomètre, et on compte le nombre de carbone. Lorsque le nombre de carbone est très faible, ça veut dire qu'on est en site de bordure. Lorsqu'il est moyen, ça veut dire qu'on est proche d'un site plan type graphitique. Et ici, lorsque le nombre de carbone est élevé, ça veut dire qu'on est au sein d'une cavité. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait une corrélation très marquée entre la charge accumulée sur l'électrode et le confinement des ions, et en gros qu'il fallait des structures très confinées pour avoir une meilleure densité de charge. Et d'ailleurs, ça s'anticipait déjà un peu sur le résultat que je vous montrerai plus tard. Au départ, on pensait que c'était uniquement la taille des pores qui était la plus importante et qu'il fallait une grande accessibilité de surface. Mais nous, ici, ce que ça montre, c'est que la géométrie des pores joue un rôle très important. Et donc, en parallèle à ça, il y a aussi eu des travaux théoriques. Donc ça, c'est je pense que c'est une bonne illustration de comment peuvent se passer les choses. Au moment où nous avons fait nos premières simulations, il y a aussi eu des travaux d'une équipe à Londres, où ils avaient des modèles beaucoup plus simples. Ils faisaient uniquement des sphères comme ça dans des cylindres et calculaient l'énergie correspondante. Mais eux, leur interprétation des résultats sur les supercondensateurs, c'était qu'il y avait la formation d'un état superionique. Un état superionique, c'est un nom qu'ils ont donné lorsqu'on a des ions de même charge qui sont côte à côte, alors que normalement c'est beaucoup plus favorable d'avoir évidemment des ions de charge opposées puisqu'ils s'attirent. Et leur interprétation physique de ce phénomène-là, c'est que comme on a des charges de surface parce que le pore est à un potentiel électrique fixé, eh bien ces charges de surface viennent écranter les interactions coulombiennes et on peut avoir des ions de même charge qui viennent côte à côte. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été prédit théoriquement en 2011. Nous, nos simulations montraient ce genre d'image en 2012, donc un an plus tard. Donc la théorie est arrivée avant la simulation. Et il a fallu 5 ans pour qu'on puisse faire des expériences. Donc c'est avec une équipe au Japon qui a fait de la diffraction des rayons X du liquide au sein des pores. Et donc là, ce qu'il faut regarder, c'est le signal en bleu. Dans le liquide, c'est des interactions anion-anion. Et en noir, c'est les interactions cation-anion. Et en fait, on a un pic avant cation-anion parce que les distances sont plus courtes et les anions ont tendance à se repousser, donc le pic est ici. Sauf que lorsqu'on passe dans des pores, alors de 1 nanomètre, c'est pas très marqué, mais 0,7 nanomètre, c'est marqué, on voit qu'au lieu d'avoir un anti-pic ici, eh bien, on commence à avoir des corrélations. Et on a pu montrer que ces corrélations-là, eh bien, c'était dû à ce genre de structure. Donc c'est un exemple, justement, où il y a eu une prédiction théorique, une confirmation par la simulation et une confirmation définitive par des expériences in situ. Alors ensuite, plus récemment, on a essayé de répondre à une question qui est est-ce que le graphène est un nouvel Eldorado pour les supercondensateurs ? Parce que, de par sa structure plane et son... Alors, le graphène de base n'est pas très accessible parce que les ions ne peuvent pas passer. Il faut qu'ils fassent le tour sur les feuillets, donc on n'a pas une très bonne diffusion. Mais tout le monde pensait que faire du graphène avec des pores, avec des trous, qui permettraient la diffusion des ions d'un plan à un autre, ça serait la structure idéale pour des supercondensateurs. Sauf qu'expérimentalement, c'est assez difficile à caractériser et les capacités mesurées vont du simple au triple. Donc nous, on a fait des simulations d'un système comme celui-là, où en fait, ça ne se voit pas très bien, mais au sein de nos électrodes, enfin ici, on voit un trou. On a fait des trous qui permettent aux ions de passer d'un côté à l'autre. Et ce que nos simulations ont montré, c'est que malgré le fait que toute la surface ici est accessible, eh bien, on a une capacité de stockage qui est plus faible que celle qu'on obtenait avant sur les carbones désordonnés. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu aussi interpréter avec les simulations. Et en gros, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on regarde la charge accumulée sur chaque atome de carbone, eh bien, effectivement, ce qu'il faut regarder ici, c'est comparer le rouge au noir. Alors, on a effectivement des carbones très chargés, donc ça, c'est très positif, ça veut dire qu'on va stocker beaucoup de charge dans ces zones-là. Mais le problème du graphène, c'est que comme il n'y a pas de port plus grand pour aller stocker les coyons, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la bonne charge, ceux dont on voudrait se débarrasser, eh bien, on a aussi beaucoup de carbones qui sont chargés négativement. Et donc, la bonne charge ici qu'on a de ce côté-là, elle est contrebalancée par cette mauvaise charge. Et alors que dans le carbone désordonné que je vous ai montré précédemment, eh bien, on n'avait pas ce phénomène-là, c'est la courbe noire. Et donc, au final, on a des capacités de stockage plus élevées dans les carbones désordonnés. Un effet assez amusant, alors qui n'est peut-être pas très important pour le stockage à l'énergie, mais qui est amusant sur le plan chimique, c'est qu'on a pu observer qu'il y a aussi des corrélations entre les pores lorsqu'on applique un potentiel. C'est-à-dire qu'on a du liquide absorbé dans un pore et dans le pore voisin, qui donc ne sont pas en contact, et pourtant on a des ions de même charge qui viennent s'absorber sur des sites communs. Et ça, c'est parce que lorsqu'ici j'ai un anion qui vient s'absorber, eh bien, je vais créer une charge positive sur la surface et ça va attirer un anion de l'autre côté. Donc j'ai des corrélations de pore à pore lorsque dans ces électrodes de graphène. Et finalement, en regardant un peu la littérature, on s'est rendu compte que c'était des choses qui étaient déjà étudiées pour la mouillabilité. Donc la mouillabilité de l'eau sur le graphite, on a un angle de contact de 90 degrés. Mais lorsqu'on va mettre des substrats, lorsqu'on va réduire déjà le nombre de couches de graphite pour passer au graphène, on réduit la mouillabilité. Et si on met un métal en dessous, eh bien on voit que la mouillabilité décroît encore. Donc il y a un effet du substrat qui finalement va impacter la manière dont les molécules d'eau s'absorbent sur la surface de graphène. Et un autre exemple, c'est en synthèse, lorsqu'on a par exemple un cristal de ZnO et sur lequel on va mettre un film de graphène, eh bien on voit que si on vient redéposer du ZnO au-dessus, eh bien ça va faire une espèce de miroir, c'est ce qu'on appelle la transparence du graphène. Et finalement, eh bien, cette transparence, elle existe aussi lorsqu'on a des systèmes ioniques comme dans notre cas. Donc au final, pour conclure sur ces supercondensateurs, ce que l'on a montré au cours des 6-7 dernières années, c'est qu'au final, il faut, sur le plan des matériaux, il vaut mieux avoir évidemment des matériaux poreux pour les nanoporeux pour augmenter la capacité de stockage, mais donc ça veut dire que les matériaux plans simples ne sont pas très bons. Mais même entre les matériaux poreux, eh bien, plus que la taille des pores, c'est la forme des sites, et il faut avoir des sites qui permettent un confinement élevé des ions pour augmenter les capacités de stockage. Ce que je ne vous ai pas montré, qu'on a pu faire par ailleurs, c'est aussi de regarder l'importance de la concentration en ions dans le système. On peut passer lorsqu'on passe d'électrolytes organiques, donc ce sont des ions dissous dans l'acétonitrile, vers des liquides ioniques, donc des solutions ioniques concentrées. Eh bien, en gros, on se rend compte en simulation, mais ça c'est quelque chose que l'on voit aussi expérimentalement, que ça va faire un compromis entre la puissance et l'énergie. Et ça, c'est principalement dû aux fenêtres d'activité des solvants, puisque les liquides ioniques permettent d'appliquer des potentiels plus élevés. Alors maintenant, Jean-Marie, dans un de ses prochains cours, va vous parler d'énergie bleue. C'est aussi un système qu'on a pu simuler, enfin, un type d'énergie bleue. L'idée, c'est d'utiliser des supercondensateurs soit pour désaliniser de l'eau de mer, ou soit pour récupérer l'énergie de mélange lorsque l'eau de mer se mélange à de l'eau douce. Et donc là, vous avez un exemple, c'est des simulations plus récentes qu'on a pu faire. Alors, ce qui se passe par rapport aux supercondensateurs, c'est qu'on a aussi optimisé les codes et on a accès à des supercalculateurs de plus en plus performants. Donc là, on peut avoir de plus en plus d'atomes dans nos systèmes. Et donc, on peut vraiment relier la capacité de stockage de ces matériaux et expliquer pourquoi certains matériaux sont plus performants que d'autres pour ces applications-là. Mais finalement, en termes de physique, c'est presque la même chose que les supercondensateurs. Alors maintenant, comme vous l'a montré Jean-Marie avant, si on passe aux batteries, on arrive sur des problématiques beaucoup plus complexes, parce que les batteries ont des interfaces qui sont réactives, c'est-à-dire que les systèmes sont en dehors de l'équilibre, et donc il y aura une composition chimique qui va sans cesse évoluer. Et en plus, on n'a pas qu'une seule interface. En général, on peut se retrouver à deux, et on a vu avant des exemples avec 3, 4, 5 interfaces qui sont successives et donc qu'il faut comprendre. Alors ici, je vous ai représenté deux types de matériaux, des matériaux de conversion, où là, le mécanisme de stockage est vraiment dû à une réaction chimique, ici, entre des nanoparticules de cobalt et puis un oxyde de cobalt, où déjà, on va avoir un, deux, et une troisième ici, trois interfaces différentes. Mais même si on prend des matériaux plus classiques, comme des batteries lithium-ion de base, eh bien, on a des électrodes en graphite, l'électrolyte, et entre les deux, une interface solide qui s'est formée. Et donc là aussi, deux interfaces à comprendre et qui sont cette fois réactives. Donc il y a beaucoup moins de travaux qui ont été faits par simulation pour les batteries que pour les supercondensateurs. On va dire qu'on est peut-être à l'enfance de ces études-là. Alors, par contre, dès qu'on parle de réactivité, on peut aller voir ce qui se passe du côté de l'électrocatalyse. Alors l'électrocatalyse, là, il y a une communauté qui est très importante qui utilise la DFT. Et en gros, le principe, ça va être de mettre une molécule sur une surface. Donc ici, vous avez une molécule, un proton, qui va s'adsorber. Et on sait quel va être le produit final. Et on regarde quels sont les paysages énergétiques reliés à toutes les réactions qui peuvent se passer. Et donc là, c'est un exemple pour la réaction du monoxyde de carbone. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux énergétiques, ça veut dire 5 étapes différentes sur 3 métaux différents. Donc à chaque fois, alors les étapes qui sont ici comme ça, c'est des étapes qui n'ont pas de barrière, donc qui sont très favorables. Après, il y a des étapes avec barrière qui sont cinétiquement limitantes. Et en fonction du métal qu'on considère, on peut par DFT avoir accès à ces barrières-là. Et une fois qu'on reproduit ces barrières, en fonction de l'énergie de dissociation du monoxyde de carbone sur la surface, on peut décider quel va être le meilleur catalyseur. Et c'est ce qu'on appelle les volcanoplots, parce que souvent, il y a un optimum. Et par exemple, ici, les meilleurs catalyseurs vont être du cobalt ou du ruthénium. Mais ça, c'est faisable par DFT sur une molécule sur une surface. Et il n'y a pas du tout de solvant, donc pas du tout d'électrolyte. Et donc on est dans un cas qui est quand même très éloigné de ce qui se passe dans une batterie, où il y a des dizaines de milliers de molécules qui vont réagir en même temps, et parfois les réactions se font même dans le liquide. Donc la DFT toute seule, en tout cas, à mon avis, ne s'applique pas bien au cas des batteries. Alors, par contre, comme je vous l'ai dit au début, on peut envisager de faire un couplage entre la dynamique moléculaire classique, donc de résoudre les équations de Newton, mais cette fois, dans cette force ici, on peut la tirer de calculs de structure électronique. Et donc, donc on repart sur la DFT pour résoudre l'équation de Schrödinger, mais cette fois, non pas juste pour avoir une énergie, pour avoir une force qui va nous permettre de déplacer les atomes. Et donc ça, ce sont des algorithmes qui ont été développés il y a maintenant une trentaine d'années par Carr et par Enilo, et qui sont quand même très coûteux par rapport à ce que j'ai pu vous montrer en dynamique moléculaire classique. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir toutes ces autres zones-là de systèmes qu'on pouvait étudier, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'atomes sur plusieurs nanosecondes, en dynamique moléculaire ab initio, en général, on étudie plutôt une centaine d'atomes pendant une centaine de picosecondes. Et vous voyez qu'on se retrouve dans cette zone-là, qui est assez disjoncte pour l'instant des phénomènes électrochimiques. Alors, j'ai quand même mis une petite intersection ici entre le bleu et le cercle et la zone noire, parce qu'il y a quand même déjà des premiers travaux que je vous présentais à la fin, qui montrent qu'on peut commencer à faire des choses. Alors pour vous montrer la puissance de la dynamique moléculaire ab initio, je vais quand même revenir sur des choses simples qu'elle a permis de faire. Donc un problème de chimie qui est très important depuis très longtemps, c'est la diffusion du proton dans l'eau. Et on apprend tous, peut-être plus maintenant au lycée, mais en tout cas assez vite, que c'est un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de Grotius, où en gros on a un proton relié à une molécule d'eau qui saute sur la molécule d'eau voisine, et cette molécule d'eau perd elle-même son proton, qui perd elle-même son proton, qui perd elle-même son proton, et donc finalement, très rapidement, le proton est censé avoir diffusé, sauté de trois ou même plusieurs molécules d'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été proposé par Grotius en se basant sur le fait que les solutions acides conduisent très bien le courant, c'est-à-dire si on met de l'acide chlorhydrique à faible concentration et qu'on met à côté un sel de table à la même concentration, l'acide chlorhydrique va conduire le courant 3 ou 4 fois mieux. Donc, la première interprétation, c'était ça, mais il a fallu quand même attendre jusqu'en 1999 pour qu'on puisse vraiment visualiser ça avec une méthode de simulation. Et donc ça, ce sont les travaux très importants des dynamiques moléculaires ab initio qui ont montré que le mécanisme de Grotius existe, mais qu'il est quand même plus complexe que juste cette petite image-là. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez un proton central, et pour que le proton... une molécule de H3O plus centrale, et pour que le proton puisse sauter sur la molécule d'eau voisine, il faut qu'il y ait un événement avant qui se passe, c'est-à-dire qu'il faut que cette molécule d'eau ici s'en aille, donc que cette liaison hydrogène se casse. On a cette molécule d'eau qui s'en va, et du coup, cette molécule d'eau qui au départ était très bien solvatée puisqu'elle faisait ces quatre liaisons hydrogènes dont elle a besoin, eh bien, elle se retrouvait orpheline, il manquait une liaison hydrogène, donc elle se tourne vers le proton en excès pour former cet intermédiaire réactionnel, et elle va aller pomper le proton. Et donc c'est maintenant cette molécule-là qui se retrouve O toute seule et qui va aller former elle-même une liaison hydrogène avec la molécule d'eau qui était toute seule. Donc on voit que le mécanisme est quand même plus complexe que ce qu'on pensait initialement. Et c'est vraiment c'est le genre de réponse que la dynamique moléculaire ab initio peut permettre puisqu'elle permet d'avoir des réactions chimiques de manière explicite. Et à partir de là, on peut aussi avoir accès à la barrière d'énergie libre et au final même à avoir la constante cinétique de la réaction correspondante. Donc si on revient à l'électrochimie, eh bien, l'application de la méthode de la dynamique moléculaire ab initio a commencé au début des années 2000 avec des méthodes qui permettent donc de simuler une boîte. Ici, c'est un hydroxyde dans de l'eau. On est sur des boîtes de simulation toutes petites parce que c'est très long. Et on peut simuler l'effet de rajouter un électron ou un proton. Et donc ça va permettre de calculer deux choses. C'est soit les pKa des acides ou des bases, et les potentiels standards. Et si on combine les deux, par exemple dans le cas de OH au point, eh bien on a le transfert couplé de protons et d'électrons. Et donc c'est souvent ça, alors là, la figure ne sort pas bien en haut à droite, mais en gros il est possible de déterminer, de placer les potentiels standards de nombreux couples en faisant ce genre de simulation, mais sachant que ça prend beaucoup de temps sur des systèmes assez petits. Un premier exemple d'application aux interfaces a été de déterminer des réactivités de surface. Donc ici vous avez une argile, c'est une pyrophyllite, qui est en contact avec de l'eau. Et la question c'est de savoir quelle est l'acidité de surface des groupements. On retrouve trois types de groupements, des SiOH, des AlOH2 et des AlOH. Et expérimentalement, c'est assez difficile de connaître ces acidités parce que lorsqu'on fait un titrage, ce n'est pas du tout comme un titrage en solution. Vu qu'on a plusieurs couples qui participent, eh bien, on va avoir des courbes difficiles à interpréter. Eh bien, en simulation, en appliquant cette méthode-là, on a pu déterminer les 3 pKa et montrer que le site le plus acide, très largement, c'était le AlOH2, suivi du AlOH qui a un pKa, je crois, de 8, si je me souviens bien, et le SiOH qui a un pKa de 7. Donc ça permet d'avoir des grandeurs qui sont quantitatives. Alors maintenant, lorsqu'on passe sur de l'électrochimie, les systèmes qui ont été étudiés par ces méthodes-là, ce n'est pas des vrais systèmes d'électrodes parce que les métaux peuvent être compliqués à traiter. Donc ce qui a été fait, c'est plutôt de regarder pour la catalyse les semi-conducteurs et après plus particulièrement l'oxyde de titane, le rutil. Et donc ici, vous avez tous les pKa et tous les potentiels standards de surface pour passer d'une molécule d'eau adsorbée sur la surface jusqu'à l'espèce O2 point point. Donc on a eu 4 transferts d'électrons au cours de ces réactions-là. Et donc là, chaque calcul, chaque flèche, c'est des mois de calcul pour obtenir le résultat correspondant de manière bien convergée. Donc ce n'est pas quelque chose de simple, mais ça permet d'avoir accès à toutes ces grandeurs-là qu'on a beaucoup de mal à mesurer sinon. Et ici, vous voyez, chaque image correspond à un des intermédiaires réactionnels. Et donc par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, la grande différence, c'est que cette fois, le solvant est bien pris en compte, donc on a tous les effets et on est à température finie, donc on est vraiment proche de conditions réalistes. Donc cette dynamique moléculaire ab initio permet d'étudier des systèmes réactifs. La dynamique moléculaire classique permet d'étudier à l'heure actuelle des supercondensateurs. Mais à l'heure actuelle, on n'arrive pas encore à avoir des systèmes de cette taille-là qui soient réactifs. Et donc là, c'est un peu l'idée de ma conclusion, c'est que les méthodes théoriques entre guillemets de simulation, donc que ce soit la DFT, que ce soit la dynamique moléculaire classique, commencent à permettre d'étudier des interfaces, mais on n'est pas encore au point où on va vraiment donner la réponse aux questions posées par tous nos collègues expérimentateurs, quels sont exactement les mécanismes de formation des interfaces dans les batteries. Alors, je n'ai pas évoqué le tout solide parce que là, je pense que c'est encore plus complexe à mettre en œuvre au niveau des simulations. Donc, à mon avis, avant qu'on simule réellement des interfaces des batteries, il faudra quand même attendre plusieurs années. Je vous remercie de votre attention.